Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Agnès, un débat ce soir, des meetings hier soir. La campagne pour les élections européennes s'accélère à 4 jours du scrutin avec pour principal objectif la mobilisation d'un électorat toujours très indécis. On voit ça après les autres titres.
Le sud-coréen Samsung pourrait bien profiter de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le procès du manifestant qui avait insulté Alain Finkielkraut lors d'une mobilisation des Gilets jaune. Paris poursuit sa mue. Un immense jardin va être aménagé aux abords de la Tour Eiffel d'ici 2024. Et puis le baby-foot comme vous ne l'avez encore jamais vu avec des joueurs et des joueuses.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Elles sont en compétition à Cannes avec le film Sibylle. La réalisatrice Justine Trier et l'actrice Adèle Exarchopoulos. Pour elle, la montée des marches sera vendredi, mais ce matin, elles nous font le plaisir de passer par France Inter. Rendez-vous à 7h50.
Et à 8h20, la suite de nos grands entretiens spéciaux. Une tête de liste aux européennes, tous les jours, au micro de France Inter. Aujourd'hui, c'est Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Une soirée, meeting et petites phrases. Les têtes de liste et leurs mentors ont multiplié les attaques lors de réunions publiques aux quatre coins de la France. Donc hier soir, dans le Rhône, François-Xavier Bellamy pour Les Républicains s'en est pris à l'incroyable narcissisme d'Emmanuel Macron. Pour Yannick Jadot, les socialistes, les libéraux, les républicains ont tous eu leur chance et ils ont failli. Le temps des écologistes est donc venu. Martine Aubry à Lille cible Jean-Luc Mélenchon avec lequel on sait qu'on va dans le mur. Jean-Luc Mélenchon cible également de Marine Le Pen qui depuis Villeblevin dans l'Yonne rebaptise la France insoumise la France islamiste. Les insoumis en meeting hier soir à Toulouse devant un millier de militants. Alain Gastal.
Dites Manon à Macron, le bon mot de François Ruffin est désormais le slogan de la dernière ligne droite et c'est la tête de liste qui détaille le programme européen de la France insoumise, l'écologie et le refus du libre-échange.
Nous allons défendre une taxe aux frontières de l'Union européenne, une taxe kilométrique, plus le produit vient de loin. Plus il sera taxé et une taxe sociale. Si votre produit, il entre dans l'Union européenne en ne respectant pas les droits des travailleurs. Alors c'est très simple, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. C'est aussi comme ça qu'on lutte contre le dumping social.
À Jean-Luc Mélenchon de conclure durant 1h15 de déambulation et d'ironie mordante au service d'un seul objectif, un score à 2 chiffres et même la 3e place.
On nous dit c'est la République en marche qui sera en tête. On va voir. On nous dit c'est le Rassemblement national qui sera second ou en tête, comme la dernière fois. Alors peut-être que les gens vont se dire « Ah non, quand même, pas des endives à tous les repas, tout le temps !» Il y a une élection, oui, bon alors, Macron ou Le Pen ? Ah ben tiens, il y a une autre élection, Macron ou Le Pen ? Nous voulons que quand quelqu'un se dira « Bon, on veut pas de ces deux-là, c'est quoi le suivant ?» Eh bien, le suivant, c'est la France insoumise.
La soirée se termine par une sage marseillaise, quand tout à coup Jean-Luc Mélenchon propose une autre chanson, et c'est la foule qui enchaîne.
Reportage d'Alain Gastal à Toulouse. Et pour convaincre les indécis à maintenant 4 jours du scrutin, rien ne vaut des militants acharnés. La formule est signée Édouard Philippe hier soir à Valenciennes. Et les têtes de liste se retrouvent donc ce soir pour un grand débat sur France 2 et France Inter. Un débat, que dis-je, 2 débats. 6 candidats en première partie, ceux qui font la course en tête, puis 8 autres en deuxième partie de soirée. Rémi Brancato a assisté au dernier préparatif dans le studio de France Télévisions à Saint-Cloud.
3, 2, 1...
Dernier réglage dans le studio de l'émission politique, des figurants font face aux journalistes.
Bonsoir à tous, bonsoir Alexandra.
Bonsoir Thomas.
Bienvenue dans l'émission politique, pardon, nous sommes à 4 jours de l'élection européenne.
Alexandra Ben Saïd et Thomas Soto ajustent le déroulé de l'émission, comme pour le premier débat du 4 avril, 12 minutes de temps de parole par candidat ou chef de parti, un compteur chacun, mais cette fois pour les déclencher davantage d'opérateurs, 1 pour 2 candidats. Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de l'émission, promet plus de précisions.
Au précédent débat, on avait trouvé que de temps à autre, ce temps de parole tardait un peu à se déclencher. Justement, on a essayé d'affiner le dispositif pour que le temps de parole puisse se déclencher automatiquement.
Et il y aura des nouveautés, plus de votes. Les candidats devront se positionner sur 8 questions, dire s'ils voteraient pour, contre ou s'ils s'abstiendraient. Nouveauté aussi, les thèmes sont définis par un sondage Ipsos Soprasteria.
On annoncera un petit peu en direct le résultat de ce sondage et toute l'émission est structurée à partir des thèmes prioritaires pour le vote des Français d'hier. dimanche.
Et comme l'échéance approche, Thomas Soto s'attend à des tensions.
Ils sont fatigués, les candidats. Ils ont enchaîné les meetings, les débats, les interviews. Donc ils sont claqués. Donc là, ils savent qu'ils ont encore un dernier gros rendez-vous de campagne, en tout cas médiatiquement. C'est un peu une finale de Champions League, là.
Une finale qui se jouera dimanche dans les urnes.
Et soirée spéciale dès 20h sur France Inter avec Fabienne Sintès. Le débat, le premier débat, commence lui à 21h15.
Il est 7h05, Agnès. Les agences de l'État dans le collimateur de Matignon.
Car la question demeure, comment financer les 20 milliards d'euros de mesures gilets jaunes et notamment les baisses d'impôts? Delphine Simon s'est procuré la note de Matignon qui doit être envoyée dans les tout prochains jours dans les ministères.
Dans le viseur de Matignon, les agences de l'État qui emploient moins de 100 postes à temps plein. Or 15% disposent déjà de moins de 49 postes selon des documents budgétaires. Aucun organisme en particulier n'est pointé, mais parmi les effectifs les plus réduits, on peut citer les 12 postes de l'autorité centrale des nuisances aéroportuaires ou les 16 postes de la commission d'accès aux documents administratifs. Les instructions du Premier ministre sont claires. Il s'agit de passer au crible les 1200 agences et opérateurs auxquels s'ajoutent de multiples délégations aux commissariats, des organismes qui, selon Matignon, nuisent à la lisibilité et à la cohérence de l'administration centrale. Il faudra donc faire la chasse aux doublons et vérifier si leur fonction initiale est toujours remplie. Et les administrations qui souhaitent maintenir ces agences à effectif réduit devront le justifier avant le 15 juin. À ce stade, les économies ne sont pas quantifiées, mais selon une note de la fondation IFRAP, les effets budgétaires attendus sont microscopiques.
Autre question au chapitre économique, à qui profite la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Et la réponse ce matin est Samsung, le groupe sud-coréen numéro 1 mondial de la téléphonie, entend profiter de l'interdiction faite aux entreprises américaines de se fournir chez le chinois Huawei pour conquérir de nouveaux marchés. Frédéric Oujardias est à Séoul pour Inter.
Samsung peut se frotter les mains. Google a interdit à son principal concurrent, Huawei, d'utiliser des applications aussi incontournables que YouTube, Gmail et Google Maps. Pire, Google refusera d'équiper les prochains smartphones Huawei de son système d'exploitation Android. Les analystes font remarquer que comme Samsung vend aussi des téléphones Android similaires à ceux de Huawei, le géant coréen sera le principal bénéficiaire de cette interdiction, pas sur le marché chinois qui est très verrouillé, mais sur les autres marchés étrangers. Samsung devrait aussi profiter des déboires de son concurrent dans le secteur crucial et très sensible des équipements 5G, la prochaine génération d'Internet mobile ultra rapide. Les États-Unis soupçonnent Huawei de placer dans ses produits des puces, facilitant les activités d'espionnage de Pékin. Mais la Corée du Sud étant un allié très proche de Washington, Samsung est épargné par ses soupçons. À la bourse de Séoul, l'action de Samsung Electronics a augmenté de plus de 3% depuis le début de la semaine. Séoul, Frédéric Oujardias, RFI pour France Inter.
Retour en France avec le procès cet après-midi du manifestant qui avait injurié Alain Finkielkraut. C'était le 16 février dernier en marge d'un samedi de mobilisation des gilets jaunes à Paris. Le philosophe n'a pas voulu porter plainte, mais c'est le parquet de Paris qui a décidé de poursuivre cet homme pour injure à caractère antisémite. Jean-Philippe Deniaux.
Espèce de sioniste grosse merde, sale race, Benjamin ne peut guère nier les propos lancés ce jour-là, tant ils ont été filmés et immédiatement diffusés sur les réseaux sociaux. Mais son avocat affirme qu'il n'est pas antisémite, que ce jour-là, il a répété des mots que tout le monde utilise. Malheureusement, toute cette affaire a été amplifiée, plaide maître André Chamy au micro de Patrick Janton.
On essaye de politiser le dossier pour couvrir autre chose, c'est-à-dire l'affaire des gilets jaunes, parce que on cherchait le raciste antisémite dans les gilets jaunes, et puis aujourd'hui, on efface ça par l'affaire Veller, qui va devenir le symbole du gilet jaune raciste antisémite.
Maître Chamy estime que son client a été poursuivi parce qu'il était le plus reconnaissable des manifestants, avec sa petite barbiche, parce qu'il avait la gueule de l'emploi. Cette affaire a valu à Benjamin des menaces et lui a même coûté son emploi dans une boutique de téléphonie. Il risque cet après-midi jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende.
Et puis un CRS renvoyé aux assises pour avoir lancé une grenade de désencerclement lors d'une manifestation contre la loi travail en septembre 2016. L'engin a touché un manifestant qui a perdu un œil. Nous entendrons la victime dans le journal de 7h30. Et puis ils seront finalement 9 pour le deuxième débat ce soir sur France 2 et France Inter. Nicolas Dupont-Aignan vient d'accepter d'être finalement de la partie pour ce deuxième débat.
Et à 7h10, une grande coulée verte du Trocadéro à la Tour Eiffel.
Anne Hidalgo a présenté hier le projet de réaménagement du site qui doit être prêt pour les JO de 2024, avec un budget de 72 millions d'euros, entièrement financé par la redevance que paye la Tour Eiffel à la ville. Un projet, Isabelle Pirou, qui doit bénéficier aux habitants et aux touristes.
Cet espace de 52 hectares doit devenir un nouveau parc parisien, un peu à l'image de ce qui se fait dans les grandes villes américaines. Concrètement, tout le quartier entre la Tour Eiffel et le Trocadéro va devenir piéton et végétalisé comme une seule grande balade qui se poursuit jusqu'à l'école militaire. Avec de nouveaux gradins aménagés côté Trocadéro pour avoir une vue sur la Tour Eiffel entièrement dégagée et sur le pont d'Iéna planté d'arbres et de gazon. Un pont d'Iéna piéton ouvert uniquement au vélo, au taxi et au bus, mais interdit aux voitures. Des voitures qui seront aussi reléguées dans les tunnels, sur les deux quais de la Seine et sur une chaussée très rétrécie en surface. Un projet qui, en végétalisant la capitale sur une très grande superficie, va aussi permettre, rappelle Anne Hidalgo, la maire de Paris, de préparer la capitale à faire face aux élévations de température prévues avec le changement climatique.
Autre projet, celui de La Poste, qui envisage de créer des résidences pour personnes âgées dans les anciens hôtels des postes situés dans les centres-villes, notamment à Perpignan, Metz ou Roubaix. En tout, 14 sites seraient concernés. Les bâtiments spacieux seraient transformés en appartements adaptés aux seniors avec des services de proximité. Le groupe La Poste cherche à diversifier ses activités depuis la baisse du courrier et a notamment acquis il y a 2 ans Asten, un prestataire de services de santé à domicile. Un baby-foot vaut mieux que de longs discours. Traduction, un baby-foot mêlant joueuses et joueurs fera beaucoup plus pour le sport féminin que les bonnes intentions. À l'origine de ce concept, une ancienne joueuse internationale, pionnière dans les années 80 pour l'égalité entre les sexes sur le terrain et donc également dans les baby-foot, Jérôme Val.
Une figurine de 13 cm pour 110 grammes et pour la première fois, une silhouette féminine avec ses formes et une tenue de footballeuse.
Elle est magnifique, elle est très très belle, elle a une belle allure, elle est sportive, en fait elle est normale quoi.
Cela fait des décennies que Nicolas Barre a fait de l'égalité homme-femme son combat. Et pour cette ancienne joueuse qui la première a fait condamner un club pour sexisme au début des années 2000, il n'était pas question de proposer un baby-foot uniquement féminin.
Les filles et les garçons ensemble, ça avait un sens fondamental pour moi, c'est que les filles arrivent, mais les garçons continuent à jouer.
Ingrid Bergalia est la directrice de Bonzini, fabricant de baby-foot installé en Seine-Saint-Denis.
On avait créé déjà une joueuse en 2006, mais à l'époque, elle était un peu plus à l'effigie de la sportive tenniswoman plutôt que la footballeuse. Pour nous, c'était déjà un projet qu'on avait en tête de créer une nouvelle joueuse, mais c'était devenu effectivement une évidence de rentrer dans ce projet avec elle.
Cette initiative est loin d'être symbolique pour Nicolas Barre. Un baby-foot peut avoir plus d'impact qu'un long discours.
Ça fera parler et ça fait changer les regards. Et si on continue à dire c'est normal, c'est pas un problème, c'est le but à atteindre. C'est que personne ne se rende compte de rien finalement. Voilà, et que ce soit plus un combat.
Ce baby-foot mixte sera commercialisé après la Coupe du Monde.
Et la Coupe du Monde débute en France le 7 juin. Coup de chaud sur la croisette enfin hier avec la montée des marches de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, héros du dernier Quentin Tarantino. Premières impressions du service culture à découvrir sur franceinter.fr et puis ça continue aujourd'hui avec Roubaix, une lumière, le film d'Arnaud Desplechin avec Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. En compétition aussi le dernier, Xavier Dolan, Mathias et Maxime.
Merci Agnès Soubiran.